Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Israël retarde la libération des prisonniers palestiniens prévus aujourd'hui en échange des 6 otages israéliens qui ont été relâchés par le Hamas à Gaza. Au Liban, des milliers de personnes ont afflué cet après-midi vers la banlieue sud de Beyrouth. Elles assisteront demain aux funérailles d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne fin septembre. Des centaines de manifestants à Londres en soutien à l'Ukraine, près de 3 ans après le début de l'invasion russe dans le pays. En France, le coup d'envoi du Salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris en présence d'Emmanuel Macron, l'occasion pour le président français de redire son opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Qui seront les prochains à poser le pied sur la Lune ? La course a déjà débuté pour y parvenir. Européens, Japonais et Américains construisent une station spatiale qui servira d'avant-poste aux astronautes. Benjamin Netanyahou dit qu'il agira avec fermeté afin de ramener tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza. 6 otages israéliens ont été relâchés aujourd'hui par le Hamas. Ces 6 otages sont les derniers encore en vie, dont la libération était prévue dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu. En échange, Israël devait libérer ce samedi 602 prisonniers palestiniens, mais ces libérations ont été reportées. Les autorités israéliennes n'ont pas annoncé de raison précise pour le moment. Le Premier ministre israélien qui doit tenir une consultation ce soir selon les autorités. Au Liban, les funérailles d'Hassan Nasrallah auront lieu demain. Le chef du Hezbollah assassiné par l'armée israélienne il y a 5 mois. Un moment de recueillement mais aussi une mobilisation par laquelle le mouvement armé devrait prouver le soutien dont il jouit encore même à affaibli après la récente guerre avec Israël. Alors Stéphane, on vous retrouve en direct de Beyrouth. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues demain pour cette cérémonie donc, et l'affluence est déjà bel et bien visible ce samedi.
Absolument, des milliers de personnes ont convergé depuis la mi-journée vers le sud de Beyrouth en provenance de l'est et du sud du pays, arborant un drapeau du Hezbollah, portrait de Hassan Nasrallah. La communauté chiite se mobilise pour ses funérailles. C'est un moment pour faire le deuil alors que certains n'ont longtemps pas voulu croire à la mort de l'ancien chef du Hezbollah. Un moment pour se retrouver après les souffrances de la guerre qui ont principalement visé les zones chiites du Liban. Un moment encore pour afficher une forte représentation alors que les chiites craignent aujourd'hui d'être isolés au Liban et sur le plan régional. Ces funérailles ne rassembleront ni cette seule communauté, ni seulement des Libanais. Des participants sont arrivés ces jours-ci d'Irak et d'Iran, du Koweït ou du Yémen. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des lieux de prière ont été ouverts pour héberger ceux qui viennent de loin. Les derniers préparatifs se terminaient aujourd'hui pour la cérémonie qui se tiendra à la cité sportive juste à la sortie de Beyrouth. Sur les routes alentours, partout, des posters géants de Hassan Nasrallah et d'autres responsables du Hezbollah tués au cours des derniers mois. Des foules se pressaient aujourd'hui sur le lieu où Hassan Nasrallah sera enterré demain dans la banlieue sud ou sur celui où il a été assassiné par Israël lors d'un gigantesque bombardement, un lieu de pèlerinage pour ses partisans depuis la fin de la guerre.
Alors Stéphane, en direct depuis Beyrouth, notez que des médias iraniens annoncent que le président du Parlement iranien se rendra également aux funérailles demain. RFI 19h04 à Londres, je suis aux côtés de l'Ukraine, voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes de Britanniques qui ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. Manifestation qui intervient près de 3 ans après le début de l'invasion russe du pays et sur fond de tensions entre Washington et Kiev, alors que Donald Trump a entamé des négociations de paix avec la Russie, mais sans inclure l'Ukraine. Reportage dans la capitale britannique d'Emeline Vin.
Fin à l'occupation, Russie dehors, scandent des manifestants devant l'ambassade de Russie. Pour Alicia, soutenir l'Ukraine, c'est aussi défendre la sécurité du reste de l'Europe.
Trump est en train de vendre l'Ukraine, c'est effroyable. Si Poutine réussit à obtenir quoi que ce soit, c'est un message terrible pour le reste du monde. Je ne sais pas si Trump entendra, mais j'espère que notre gouvernement nous écoutera. Il ne faut pas céder.
Juste à côté d'elle, Tony, tournesol à la main, estime que le Royaume-Uni a un rôle à jouer. D'ailleurs, le Premier ministre Keir Starmer sera à Washington cette semaine.
J'espère que Starmer sera clair avec Trump. Il aura l'air d'un lâche s'il autorise Poutine à gagner et il sera vu comme un amadoueur.
Dans le cortège de nombreux Ukrainiens, arrivés pour certains bien avant la guerre, pour Sacha, originaire de Kherson, Keir Starmer ne peut pas tout non plus.
Même si on soutient l'Ukraine, il faut penser politique, économie. Alors je comprends que Starmer essaie plutôt de se poser en médiateur et tente de désamorcer la situation.
Ne nous oubliez pas, implore la jeune maman, même si la guerre dure depuis 3 ans déjà. Emeline Van, Londres, RFI.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron se rendront la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Les Européens qui craignent que Donald Trump ne mette fin à la guerre dans des conditions favorables pour la Russie et sans fournir à l'Ukraine des garanties pour sa sécurité. Les États-Unis qui ont proposé un projet de résolution à l'Assemblée générale de l'ONU, projet qui ne fait pas mention du respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Emmanuel Macron inaugurait ce samedi le salon de l'agriculture qui a donc ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Le président français qui a tenté de rassurer les agriculteurs, affichant notamment son opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Écoutez.
Dans la mesure où il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui en fait protègent de la concurrence déloyale, et ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde qui permettent, quand un marché est déstabilisé, de le stopper. On ne l'a pas dans ce texte. Donc c'est un mauvais texte tel qu'il a été signé. Et donc on fera tout pour qu'il ne suive pas son chemin, pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. On est à un moment de géopolitique extrêmement tendu. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et donc notre responsabilité, c'est de produire sur notre sol ce qui permet de nous nourrir et de nourrir nos enfants. C'est ce à quoi nous travaillons. On travaille à ce qu'il n'y ait pas de scission de l'accord, on travaille à ce qu'il y ait une minorité de blocage et à convaincre tous nos partenaires. Parce que je pense que nos arguments sont les mêmes dans tous les pays d'Europe, qui font en effet défendre cette capacité à produire européenne.
Emmanuel Macron au micro de Diego Tenorio et Valérie Gasse, le chef de l'État qui a évoqué aussi aujourd'hui un acte de terrorisme islamiste après une attaque au couteau à Mulhouse dans l'est de la France. Une personne est décédée. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau doit se rendre sur place dans la soirée. Le parquet national antiterroriste est saisi de l'enquête. Tout s'est passé en marge d'une manifestation. Un homme a voulu s'en prendre aux forces de l'ordre en criant à l'Akbar. Un civil s'est interposé. Il est par la suite décédé. 2 policiers municipaux ont également été grièvement blessés. L'assaillant présumé, lui, était fiché pour prévention du terrorisme. Le pape ne récitera pas la prière de l'Angélus demain à Rome et ce pour la 2e semaine consécutive. Le souverain pontife qui est dans un état qui reste critique. Objectif Lune, 50 ans après avoir marché sur la Lune, les Européens, les Américains et les Japonais voudraient réitérer cet exploit. Et pour cela, ils construisent une station spatiale qui servira d'avant-poste aux astronautes. Reportage dans une usine en Italie qui fabrique cette future station spatiale, Justine Fontaine.
Pour l'instant, les modules où vont séjourner les astronautes autour de la Lune ressemblent à de grands cylindres en aluminium, 3 mètres de diamètre chacun. Ils sont construits dans cette usine de la banlieue de Turin par l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space. Dernier serrage de boulon avant le départ pour les États-Unis le mois prochain.
Ils sont en train de sceller le sas d'entrée.
Anna Maria Pieras de Thales Alenia Space.
C'est une activité très complexe. Il faut être extrêmement précis pour garantir qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
En tout, l'entreprise a décroché pour plus de 800 millions d'euros de contrats pour produire la majeure partie du squelette de la station, qui sera bientôt assemblée dans l'espace, un peu comme un Lego.
Nous prévoyons le premier lancement en 2027.
John Olensen de la NASA dirige pour l'Agence spatiale américaine le programme Gateway, du nom de cette future station spatiale. un avant-poste pour les astronautes vers la Lune et même au-delà.
L'idée est de trouver comment on peut fonctionner dans l'espace lointain afin de poursuivre l'exploration jusqu'à Mars ou plus loin.
Mais le projet a pris du